Depuis sa création en 2005, le mouvement Génération Précaire alerte régulièrement sur les conditions d'insertion des jeunes. Où en sommes-nous en 2010 sur la question des stages? Nous écoutons Guillaume, le porte-parole de Génération Précaire.
Le point de départ de notre réflexion, c'était la question des stagiaires. C'est un statut hybride qui a fini par être utilisé comme un contrat de travail dérogatoire. Et pourquoi il fallait passer beaucoup de temps pour présenter la situation des stagiaires? C'est parce qu'elle était ignorée et de la part des représentants des salariés, et finalement du monde universitaire, qui lui-même pensait qu'elle se concentrait sur les étudiants en tant qu'ils étaient étudiants. Donc le statut hybride, à la fois étudiant, à la fois salarié, enfin en situation de participer à la production, personne n'envisageait ça. Les syndicalistes considéraient que c'était pas leur clientèle, et puis les universitaires se disaient, finalement, ça c'est l'histoire de l'économie, on va dire de l'économie réelle, de l'entreprise, c'est elle qui se débrouille avec nos étudiants. En vérité, on a demandé des choses toutes simples au départ. Combien vous avez d'étudiants dans telle boîte? Puis combien il y a d'étudiants dans le privé? Combien il y en a en public? Combien il y en a en tout? Et à toutes nos questions, les gens disaient, on ne sait pas. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que ce statut particulier était une ressource vitale pour beaucoup d'entreprises qui tapaient là-dedans. C'était pas difficile de s'en rendre compte, comme nous, on a souvent fait des stages dans des entreprises où il y avait la moitié de l'effectif sous forme de stagiaires. Donc, on est passé du stade où on témoignait du problème des stagiaires aussi de manière individuelle parce qu'on avait vu des choses vraiment très abusives. Et progressivement, assez rapidement aussi, on a analysé le problème dans sa globalité. La précarité, un de ses aspects, c'est cette impossibilité des jeunes à rentrer dans le marché du travail en France. Et en même temps, c'est pas parce qu'ils rentrent pas de manière durable dans le marché du travail qu'ils ne contribuent pas à la machine productive française. Et la machine productive française, elle est finalement beaucoup plus efficace qu'elle ne devrait l'être si tous les jeunes français qui n'ont pas d'emploi stable étaient vraiment au chômage. Tout ça, c'est assez complexe à faire entendre et c'est pour ça que régulièrement, il fallait rappeler tous les secteurs différents où il y a des problèmes de stage, les endroits où il peut y avoir des pratiques un peu meilleures, et surtout faire valoir que c'est quelque chose qui touche l'ensemble des étudiants, quelles que soient les filières auxquelles ils se destinent. Vous avez des types d'abus particuliers dans les grandes entreprises, vous avez des façons pour les petites entreprises d'abuser, vous avez le public qui aussi longtemps a considéré que c'est pas normal de rémunérer ses stagiaires, et qui maintenant est obligé de le faire. Vous avez le monde libéral, les associations, les ONG. On a pris beaucoup de temps pour installer le débat, parce que personne n'avait en fait intérêt à parler de ces situations-là, parce qu'en fait, tout le monde y avait un intérêt. Au niveau théorique, on a obtenu pas beaucoup de choses. Il faut savoir que notre mouvement, il est né un petit peu avant le CPE, et il a en fait un petit peu contribué à la mobilisation aussi sur la question du CPE, consistant à dire les situations de travail dans lesquelles se retrouvent des jeunes ne doivent pas être plus pourries par principe parce que c'est des jeunes. Et d'une certaine manière, améliorer la situation des stagiaires, c'était préparer une amélioration ou une non-dégradation de l'emploi des jeunes en général. On était partie prenante de ce mouvement-là. Sauf que nous, on ne demandait pas intégralement le retrait. Ça, c'était le rôle des organisations syndicales étudiantes. Nous, on a essayé d'obtenir des choses dans le projet de loi égalité des chances. Il a fallu revenir ensuite à la charge pendant des mois et des années pour préciser des choses qui maintenant sont codées en dur par des décrets, comme quoi il est interdit de remplacer par exemple des CDD par des stages, mais le versant répression est absent. On obtient par exemple des rémunérations minimales obligatoires à partir de 3 mois, et puis vous avez des facultés qui acceptent que leurs étudiants aillent faire des stages de 2 mois et 29 jours. Le mouvement lui-même s'est encore plus étoffé parce que notre diagnostic sur la précarité, elle englobait évidemment la question de l'entrée dans l'emploi, mais aussi les questions de logement. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un deuxième mouvement qui s'appelle Jeudi Noir, qui s'occupe du mal-logement des étudiants, des jeunes actifs. Et parce que pour nous, c'est une partie aussi fondamentale de la précarité telle qu'elle se vit en France. Donc, si vous voulez, la nébuleuse s'est enrichie de plein d'autres gens qui, eux-mêmes, ensuite, nous ont connectés à d'autres mouvements sociaux, certains faisant de la politique, certains étant élus. Donc maintenant, on a des gens qui sont de cette mouvance, qui sont des députés européens, puis des conseillers régionaux. Donc, c'est toute une sorte d'histoire d'une génération politique, des gens qui au départ se retrouvent sur Internet pour dire « Ouais, on n'est que 10, mais on va essayer de faire quelque chose sur la question des stages ». 5 ans après, vous avez des gens qui sont déjà, pour certains, par exemple sur la région Île-de-France, élus ou actifs au conseil régional et les mains dans les dossiers.
Sachant que ces mouvements, en tout cas Génération Précaire, trouvent aussi un écho au niveau européen.
Ah ça, il se trouve que c'était très au début. Assez miraculeusement, on a trouvé des gens en Europe, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, qui s'étaient posé la question-là. Au niveau médiatique, on n'appelait pas ça pareil. On disait c'est la génération des 1000 euros. Mais le syndrome est le même. C'est-à-dire, en Italie, en Allemagne, on trouve ça normal que les gens fassent des études très longues et que presque après, il faille les punir d'une entrée encore plus tardive dans le monde du travail. Donc vous avez une paupérisation d'une classe comme ça de gens très diplômés. L'Allemagne, la France et les pays latins ont vraiment un souci un peu de ce côté-là. Et tout de suite, on a vu effectivement des gens et fabriquer une espèce de coalition de tout petits mouvements pour au moins mettre en commun des actions et des expertises. Et assez vite, bah oui, on a commencé un petit lobbying européen qui maintenant porte ses fruits parce qu'effectivement, il va y avoir le vote d'une charte, essayer de faire progresser un document le plus efficace possible sur l'amélioration de la condition des stagiaires. Voilà, on a des gens qui se rendent à Bruxelles et qui sont aussi appuyés par une eurodéputée qui est proche de nos thèses.
Pour renforcer l'apprentissage notamment, passer du stage à l'apprentissage.
Alors ça, c'est une deuxième stratégie qu'on avait dès le départ. On s'est bien rendu compte que, en fait, le stage tel qu'il a été créé à la fin des années 60 est une dérogation à l'apprentissage. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, elle n'est justifiée par rien. C'est-à-dire, quelqu'un écrit sur un bout de papier qui fait trois lignes, on mettra des étudiants dans des situations dans les entreprises et ça ne sera pas de l'apprentissage. Point. Et 30 ans après, vous avez trois fois plus de stages qu'il y a d'apprentissage. Donc la dérogation en est venue à subvertir totalement le système. Alors, entre-temps, il y a eu plein de choses. Des métiers ont disparu, le tertiaire a explosé, l'industrie a baissé, enfin, toute la société française a évolué. Mais au départ, ce n'est que trois lignes. Et la question, c'est de dire, soit on essaye de partir de ce statut où il n'y a pratiquement rien comme garantie, le statut du stage, et on essaye de le charpenter, de le gonfler en droit pour faire quelque chose de cohérent et qui respecte vraiment sa destination pédagogique, soit on en revient à ce qui est l'origine dont on a voulu faire le tour, qui est l'apprentissage. L'idée, c'est de dire, bon, tout le monde vante l'apprentissage, tout le monde voit les abus qu'il peut y avoir à un statut aussi souple et flexible que le stage. On va essayer de reverser le maximum de stages longs en apprentissage, en assouplissant à la marge le système de l'apprentissage, mais sans le dégrader non plus. Donc nous, on est là au milieu pour dire, non, on améliore le statut du stagiaire en proposant que le format apprentissage s'applique de plus en plus souvent aux études supérieures, mais sans dégrader évidemment les conditions, par exemple, de l'apprentissage pour d'autres secteurs pour lesquels il a été fait. Mais là aussi, on s'aperçoit qu'en 5 ans, on a commencé comme un petit mouvement rigolo, sympathique, qui jette des confettis et qui porte des masques, etc., en un milieu qui va contester des choses très en profondeur.
Oui. Par rapport à un étudiant qui, là, demain, devrait commencer un stage, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête? Quels sont ses droits aujourd'hui?
Il a le droit d'impliquer plus fortement son école et son université, en lui disant, c'est pas à moi de trouver forcément tout seul un stage. Ça a été conçu beaucoup comme ça. On dit, ah bah c'est difficile de trouver un stage, bah ça vous fera les pieds, ça vous apprendra la vie, etc. Non. Si le stage est une part pédagogique de l'enseignement, l'université et l'école, elle a un intérêt à ce que l'étudiant lambda trouve un stage de bonne qualité. L'étudiant, quand maintenant il cherche un stage, s'il a des difficultés ou s'il a des doutes, il vaut mieux avoir au maximum l'avis de la structure enseignante qui, elle aussi, va signer la convention. Il faut essayer de l'impliquer au maximum. La rémunération, on s'est battu pour qu'elle soit le plus, parce que c'était tacitement le cas dans bien des entreprises, mais qu'elle ressemble quand même à un salaire, au moins dans la forme, pas légalement, c'en est pas un, mais que ce soit versé régulièrement, une fois par mois, que ce soit dû à partir du premier jour, des choses qui sont évidentes, si vous voulez, dans le monde du travail, mais que des fois, l'étaient pas pour des stagiaires. Donc maintenant, tous les stages qui excèdent 2 mois sont censés être indemnisés à un minimum. Bon, c'était plutôt la limite des 3 mois, et puis le gouvernement a estimé que ça pouvait être une marque bienveillante que d'abaisser à 2 mois, donc nous on a dit d'accord, c'est bien, c'est intéressant. Quand vous faites un stage de plus de 2 ou 3 mois, et que les gens en face de vous ne parlent absolument pas de rémunération, il faut juste indiquer que voilà, maintenant c'est légal, c'est légal.
Légalement, le minimum aujourd'hui, c'est les 30% du SMIC ou ça a évolué?
C'est toujours ces 30% du SMIC qui évolue comme le SMIC évolue, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on était à 360-70 euros. D'accord. Et maintenant, 5 ans après, on est à 400.
D'accord.
Voilà.
Sachant qu'il y a des entreprises qui ont des démarches, qui ont une politique sociale, il y en a de plus en plus quand même, qui s'orientent vers la création de grilles salariales, spécialement pour les stages, en fonction du niveau d'études aussi.
Quand vous avez, dans des grands groupes et tout, les gens, ils ont ce genre de grille. Oui, ça existe. Mais nous, on incite, Les gens croient que 400 euros, c'est le maximum. Non, c'est que au-delà de 400 euros, on est censé payer des charges. Mais c'est ça qui est assez étonnant dans ce système. C'est comme si l'État avait décidé d'un seuil au-delà duquel, quand même, le travail du stagiaire représente quelque chose pour l'économie. Si une entreprise, elle a vraiment un poste qu'elle remet à un stagiaire où il y a de véritables responsabilités et où il y a un travail qui est constitué, c'est pas interdit de payer les gens au-delà de 400. Hein. Vous pouvez leur payer, vous pouvez payer 500, 600 euros et vous payerez des charges minimes, mais qui installeront finalement aussi symboliquement votre étudiant dans le système salarial global. Oui. Bon, nous, on s'est battu pour que les stages non payés disparaissent. C'est ça le plus important. Maintenant, notre but à nous, c'est pas de demander toujours plus d'indemnités de stage comme si ça devait être un substitut au salaire. Non, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les gens soient embauchés. In fine, un stage, ça doit servir à ça, et au maximum. Et on doit contraindre, y compris faire que les stages soient un petit peu moins nombreux, pour améliorer l'embauche. On a demandé au service de l'enseignement supérieur de nous faire une estimation. L'éducation nationale veut prendre en compte que les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs et les universités. Elle considère qu'avec ça, elle a tout. Il y en a en plus de ça. Bon, donc sur cette base de travail, on va dire officielle, les grandes largeurs, si vous voulez, on nous a dit 1 200 000 stages par an.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site de Génération Précaire et du coup aussi de Jeudi Noir et nous expliquer un petit peu ce qu'on pourra y trouver ?
Sur génération-précaire.org, vous aurez les dernières avancées en matière d'amélioration du statut des stages, nos propositions sur l'apprentissage, sur d'autres secteurs. Vous aurez éventuellement aussi des informations sur les gens qui veulent se plaindre au prud'homme, un petit peu de soutien juridique dans certains cas, puis des informations sur bonnes pratiques ou certaines entreprises. Voilà, bon sens, c'est des offres abusives, puisque on est un peu connu pour ça. Et sinon, sur jeudi-noir.org, vous aurez l'équivalent pour Jeudi Noir, c'est-à-dire l'état de nos mobilisations pour obtenir des choses qui vont de la régulation des loyers à l'application de la loi sur les logements sociaux, à la réforme du 1% logement.
Retrouvez ce sujet sur radioéthique.com, rubrique éthique et entreprise, et sur notre programmation en continu, aléatoirement à 8h30 et 18h30.